Oui, est-ce que vous pouvez nous concocter le coup dans ces 5 minutes?
Cinérama,
c'est un passe-temps surprenant.
Chaque semaine, chronique, interview et blind test.
Ça te satisfait?
Intensément.
J'aime bien discuter des films, vous voyez, et échanger des critiques.
Cela ne peut que nous réunir.
This is Cinérama.
Prenez le chemin habituel, la radio.
Bien, ouvre tes oreilles.
Vous lisez les critiques, monsieur?
Non mais bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Je croyais que j'avais affaire à un expert.
Un très beau film.
Ça fait toujours plaisir à entendre.
On n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Je tombe des nues.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama, votre émission de cinéma, avec aujourd'hui eh bien, des films qui sont en salle depuis le 2 mars. Bonjour Manu.
Bonjour Vincent.
Alors pour toi, c'est une comédie romantique.
Oui, c'est Ali et Ava, un film britannique.
Quant à moi, je vous parlerai de Les Meilleurs de Marion Desaigne-Ravel, que j'ai pu rencontrer. Elle nous parlera de son premier film, qui raconte une histoire homosexuelle dans un quartier populaire de Paris. Quant à Marine, elle nous parlera de Rien à foutre, film d'un duo, Emmanuel Mar et Julie Lecoustre. Et puis Guillaume, il a vu le dernier Batman par Matt Reeves. Mais nous allons commencer avec une espèce de petit débrief de la cérémonie des Césars. Cette récompense pour 15 nominations, on peut dire que cette cérémonie 2022 des Césars a consacré Illusion perdue, film de Xavier Giannoli, mais Annette de Léos Carax n'est pas loin avec 5 Césars qui comptent tous pour un film. Hein. Il y a le meilleur son, meilleur montage, meilleur effet visuel, meilleure musique et meilleure réalisation.
Je me souviens pas du nom.
Cinérama.
Si vous voulez appeler ça comme ça.
J'aimerais beaucoup vous présenter quelqu'un.
Il nous vient d'Angoulême.
Lucien de Rubempré, pour vous servir.
Et le César du meilleur espoir masculin est attribué à Benjamin Voisin.
Et tu crois que c'est quoi mon métier?
Vous éclairez les gens sur l'art? Le monde?
Mon métier, c'est d'enrichir les actionnaires du journal.
Le César du meilleur acteur dans un second rôle est attribué à Vincent Lacoste dans Illusion perdue.
Notre ligne éditoriale sera simple. Le journal tiendra pour vrai tout ce qui est probable.
Le César des meilleurs décors est attribué à Riton Dupierre Clément.
Le troisième César de la soirée, Illusion perdue.
Et le César est attribué à Pierre-Jean Larocque.
Le César de la meilleure photo est attribué à
Christophe Bocarme
pour Illusion perdue.
Et le César de la meilleure adaptation est attribué à Xavier Giannoli et Jacques Fieschi pour Illusion perdue.
Et le César est attribué à Illusion perdue.
Toutes ces magouilles sont du bruit, du vent. Il nous faut apprendre à jouer avec tout ça.
Voilà, petit clin d'œil à Illusion perdue, donc, qui est le grand vainqueur de cette cérémonie 2022 des Césars, dont Marine nous fait le débrief.
Chaque année, je regarde avec dévotion la cérémonie des Césars, oui, les 3 heures entières, et c'est la première fois, eh bien, cette année, en 2022, que je regrette de ne pas avoir failli à mon rituel. Ce vendredi 25 février, c'était la 47e cérémonie des Césars, qui marquait l'aboutissement d'une année de reprise du cinéma, reprise un petit peu compliquée pour le cinéma français. L'Académie annonçait une cérémonie apaisée et on a donc eu droit à une remise des prix de 3 heures absolument dénuée de tout discours engagé, de tout humour subversif et dénuée de toute vie également. Pour la 10e fois, Antoine Decaune animait la cérémonie, entre guillemets, hein, quoique le terme animé, et on rappelle quand même que c'est son métier, eh bien, soit ici vraiment galvaudé, puisqu'il a usé d'un ton si laconique tout au long de la cérémonie qu'il semblait n'avoir aucune envie d'être là. Étrange de constater l'intense bashing qu'a subi Florence Foresti quand elle a offert une très bonne performance en 2020, alors que Decaune, lui, a plutôt été épargné cette année. Tout aussi désabusé que lui, José Garcia s'est incrusté à la cérémonie comme autant de nulle part ailleurs pour perpétuer une longue tradition de canular entre les deux hommes. Mais même cette blague-là n'a pas pris. En fait, personne ne semblait avoir vraiment envie de rire cette année. Ironie, les seuls remettants à apporter un peu de verve sur la scène de l'Olympia lors de leur intervention furent ceux qui n'étaient pas vraiment du milieu, mais en premier lieu issus du théâtre et du rap. Alexis Michalik et Sofiane Zermani. Tous les autres semblaient eh bien, avoir été remplacés par des androïdes et des androïdes qui auraient beaucoup de mal à lire leur prompteur, à donner du rythme à leur phrasé et à porter la voix, ce qui est quand même un petit peu problématique lorsque l'on est comédien. Anna Maria Bartolomei ouvre le bal des zombies en recevant le César du meilleur espoir féminin. en face d'elle Agathe Roussel, nommée pour Titane, repart donc les mains vides. Et ce sera le cas, eh bien, pour toutes les catégories dans lesquelles le film de Julia Ducournau était nommé. Par ailleurs, Titane n'était même pas nommé dans la catégorie meilleur film, alors que le film a quand même gagné la Palme d'Or à Cannes. C'est une première dans l'histoire des Césars. On le savait déjà, mais les 4363 votants de l'Académie des Césars semblent préférer récompenser les films plutôt académiques et classiques, plutôt que des œuvres audacieuses, modernes, surtout quand elles appartiennent à la catégorie très marginalisée du cinéma de genre. Et du coup, eh bien, on serait un petit peu curieux quand même d'avoir la moyenne d'âge des votants. Benjamin Voisin reçoit sans surprise le prix du meilleur espoir masculin. On aurait espéré des pleurs, de la morve qui coule sur le costard, du bégaiement, mais à l'instar de toutes les personnes venues sur scène, l'excellent jeune comédien nous a gratifié d'un discours très poli et sans émotion, mais logique d'être récompensé pour Illusion perdue et de sembler aussi désillusionné. Illusion perdue de Xavier Giannoli qui repart avec 7 récompenses. Ce sera le grand vainqueur de la soirée, même si le réalisateur brillera, lui, par son absence. Tout comme Léo Scarrax qui recevra le César de la meilleure réalisation pour Annette, mais sans se montrer. Pour la 4e fois, Virginie Efira repart sans César. Peut-être atteindra-t-elle le niveau de Lambert Wilson, hein, 7 fois nommée au César et jamais vainqueur. Elle était nommée dans la catégorie meilleure actrice pour Benedetta face à Valérie Lemercier, qui gagne cette année pour sa prestation très complète, hein, dans le film Aline, et nous prouve, en interprétant Céline Dion à 10 ans, que l'âge, c'est vraiment dans la tête. Seule surprise de la soirée, un César du meilleur second rôle pour Aissatou Diallo Sagna, aide-soignante qui joue son propre rôle dans La fracture de Catherine Corsini, un film fort, drôle et très engagé qui réveille le fantôme des Gilets jaunes. Car en France, eh bien, on ne donne pas de budget au personnel soignant, mais on leur donne des Césars. On peut d'ailleurs s'interroger, hein, sur la pertinence de cette catégorie dans laquelle elle a été nommée, puisque La fracture était son premier rôle, mais elle n'est pas nommée dans la catégorie meilleur espoir, tandis que Anna Maria Bartolomei, meilleur espoir féminin, en est elle déjà à son 10e film. La réponse, eh bien, est plutôt évidente, hein, lorsque l'on est une femme et que l'on a dépassé 30 ans, on ne peut plus être considéré comme un espoir du cinéma français, alors qu'en revanche, pour les hommes, eh bien, l'âge ne pose aucun souci, hein, comme l'a prouvé Alexis Mananti en étant sacré meilleur espoir pour Les Misérables à 36 ans. Et puis, un beau moment de poésie avec Nicolas Maury, dont les gestes sur scène seront entièrement bruités pour la remise du César du meilleur son, gagné par l'opéra rock Annette. Et oui, nous avons eu droit, comme chaque année, hein, à la blague, les nommer dans la catégorie du meilleur son, son. Côté nouveauté, le César des meilleurs effets visuels est décerné pour la première fois cette année, à nouveau pour Annette. En revanche, le César du public, mis en place pour lutter contre l'élitisme supposé de la cérémonie, a purement et simplement été supprimé.
This is Cinerama.
On pourrait s'écouter la meilleure musique de cette cérémonie des Césars 2022. C'est celle de Annette par les Sparks.
So may we start. So may we start. It's time to start. My time to start. They hope that it goes the way it's supposed to go. There's fear in them all, but they can't let it show. They're under. Budget is large, but still, it's not enough.
So may we start.
May we start. May we now start.
So may we start.
May we start. May we now start.
It's time to start.
May we start. May we now start.
My time to start.
May we start. May we now start. We fashion a wall, built just for you. A tale of songs and fury, with no taboo. We'll sing. In minor keys,
and if you want us to kill too,
we may agree.
So may we start.
May we start.
May we not start.
So may we start.
May we start.
May we not start.
It's time to start.
thought you should know. The offers are here, so let's not show disdain. The offers are here and there.
Allez, on entame la partie des chroniques autour des films qui sont en salle depuis le 2 mars. Et on commence avec The Batman. On attend beaucoup de ce nouveau Batman, réalisé par Matt Reeves, à qui l'on doit Cloverfield et les excellents Planète des singes.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
C'est un passe-temps surprenant.
Bruce Wayne.
On se connaît.
Désolé de vous déranger, mais quand j'appelle, votre équipe me dit que vous n'êtes pas disponible. Vous pourriez en faire plus pour nos concitoyens.
On pourrait croire que c'est difficile de faire un nouveau Batman et de passer après plus de 80 ans et sans doute autant d'incarnations différentes sur petit comme grand écran. Eh bien, à la vision de The Batman de Matt Reeves, pas tant que ça. Vu que dans la tête du chevalier noir, noir, c'est noir, il n'y a plus d'espoir, Reeves donc ravive certains souvenirs émus d'amoureux du rock des années 80 et 90 et opte pour une approche un poil différente de Bruce Wayne. Exit le Playboy qui sert tous les top modèles de passage à Gotham City et bienvenue à un Robert Pattinson semblant avoir emprunté son prénom à Robert Smith. Quand il n'emprunte pas le rimmel du légendaire leader de The Cure, il devient le portrait craché. Bon. Un petit peu plus beau quand même, de Trent Reznor, le meneur de Nine Inch Nails et producteur de Marilyn Manson à ses heures perdues. On a quand même droit deux fois à la chanson Something in the Way de Nirvana pour bien montrer que ce Batman-là, il va être plutôt grunge et avec des dérapages vers le métal industriel, comme soulignent des sonorités parfois distordues de la BO de Michael Giacchino, donc plus proche du Larsen ou de la basse plaintive que de la pure musique. Pour peu, on se dit qu'on aurait pu avoir un Batman déambulant au ralenti sur du typo négatif. Et on se rappelle avec le sourire que les BO des derniers Batman des années 90, eux, misaient plus sur les inoffensifs U2 ou Seal pour vendre des CD. Malheureusement, on va voir que, question histoire, il n'y aura pas forcément la même audace et volonté de proposer quelque chose de neuf.
Je cherchais à vous joindre.
C'est la dernière du Riddler. C'est plein de références au Wayne. Il faut qu'on résiste, sinon personne ne le fera.
Vous avez un tas de chats.
J'aime les bêtes qui errent dans les rues. Le bat et la catte. Ouais, ça sonne bien.
C'est une nouvelle amie?
Je n'en suis pas si sûr.
Mon seul but est de démasquer la vérité sur ce cloaque qui nous sert de ville. Vous êtes impliqué, vous aussi.
Vous êtes bien moins intelligent que je ne pensais.
Bruce... Wayne.
Il y a quand même une précision à faire d'entrée qui aura son importance dans la réception de son contenu. The Batman dure 3 heures. Le film n'est jamais désagréable, mais il est beaucoup trop long pour son propre bien. Quand il n'est pas occupé à expliciter sur la longueur ce qui avait été déjà compris ou dessiné le temps d'un plan rapide, c'est la démarche même du héros qui prête arrière-temps, il semble se déplacer au ralenti. On dirait plus un nouveau chapitre de Vendredi 13 avec son tueur monolithique qu'un agile chevalier avec une cape qui est censée justement souligner sa dextérité. Même si The Batman peut paraître long, la principale raison est qu'en fait, ce film, vous l'avez déjà vu 4 ou 5 fois dans la même saga, mais sous l'égide d'un réalisateur différent à chaque fois. Alors, une élection qui cache des magouilles mafieuses, bonjour Batman le défi. Un trio chat, chauve-souris et pingouin, toujours Batman le défi. Un laissé-pour-compte bouffon qui devient symbole d'anarchie, c'est The Dark Knight. Gotham City assiégé par des fous, aidé par une catastrophe programmée, hop, Batman Begins, c'est The Dark Knight Rises. Et la liste est longue comme le bras. C'est pourquoi il est difficile de sauter au plafond ou de crier au renouveau, bien parce que c'est impossible. Et encore, on ne cite pas tous les emprunts multiples à certains chapitres célèbres en bande dessinée comme The Long Halloween, dont il reprend la manière d'introduire Catwoman. Après la surprise des premières scènes, on s'aventure donc sur un terrain bien moins enthousiasmant.
Pendant toutes ces années, vous m'avez menti, Alfred.
Nous avons tous nos blessures, Bruce, mais vous restez un Wayne.
Il est impliqué dans tout ça?
Mais non.
Dans c'est quoi? C'est un type qui se fait justice lui-même!
Qui êtes-vous là-dessous? Qu'est-ce que vous cachez?
Célina, ne gâchez pas votre vie.
Vous en faites pas, mon chou. J'en ai 9 en tout.
Même Batman n'échappe pas au rouleau compresseur idéologique américain, puisque Catwoman dénonce les mâles blancs privilégiés dont fait partie, d'après elle, Bruce Wayne, ignorant apparemment tout de son histoire et trauma personnel. Mais apparemment, il y a deux poids, deux mesures. De même, le film semble assez schizophrène sur sa vision de ce qu'est un super-héros. Il y a d'un côté l'envie de faire un film avec un véritable héros autonome et de l'autre, la volonté de dénoncer les violences policières. Cela rentre bien évidemment en totale contradiction puisque Batman est à la base un héros assez sombre et motivé par une certaine rancœur et vengeance. Alors certes, ce n'est pas le Punisher qui assassine absolument tous les malfrats sur son passage et dans d'autres souffrances, mais nous ne sommes néanmoins pas dans quelque chose de plus défini et sain comme le Superman, par exemple, des origines. Il aurait donc fallu trancher et jouer un peu plus franchement la carte finement amenée par Frank Miller dans The Dark Knight et Alan Moore dans Watchmen dans les années 80 sur la différence entre justicier et vigilante, où commence la vendetta et où se conclut la justice. En somme, à la fin, on retiendra que c'est au fond plutôt cool de se mettre des oreilles pointues sur le crâne pour taper des vilains, ce qui réduit la réflexion engagée et qui, à défaut d'être neuve, pouvait remettre en 2022 certaines pendules à l'heure. Heureusement, et malgré tous ces couacs, Matt Reeves applique avec suffisamment de passion et de métier ce qu'il avait su efficacement faire pour tonifier la saga de la planète des singes. Reste plus qu'à attendre l'inévitable suite.
Elle peut être cruelle, aveugle ou inachevée, mais qui en est privée va voir la violence se lever.
La justice. C'est ça la bonne réponse.
Un DJ plaqué et une mère célibataire se rencontrent, c'est compliqué et lumineux à la fois. Ali et Ava, tu nous en parles, Manu.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Cinérama.
Oui, oui, oh, ça va ?
Feel Good Movie singulier, Ali et Ava narrent la rencontre entre Ali, pakistanais issu d'un milieu aisé, et Ava, mère de famille ayant des difficultés à joindre les deux bouts. Alors ils font connaissance à l'école en raison d'affection qu'ils portent tous deux envers Sofia, la fille de locataires slovaques dont Ava est l'assistante sociale. Alors tout de suite, en dépit de leurs différences, le courant passe. Lui est un homme cultivé, plein d'humour et travaillé de l'intérieur. Il aime la nuit venant danser sur les capots des voitures en écoutant de l'électro. Quant à Ava, elle incarne un peu le prolétariat. Elle attire Ali par sa générosité, son humanité, sa douceur, leur caractère en adéquation avec la musique qu'elle affectionne, le folk, et sans doute plus ringard encore aux yeux d'autrui, la country. Une de leurs premières discussions tourne autour de leurs goûts musicaux aux antipodes lors d'un échange très drôle teinté de moquerie et de bienveillance mêlée. Un lien profond les attire, malgré leurs différences, ce qui les unit, la solitude, sans nul doute. Mais ce serait réducteur de les enfermer dans ce prisme trop évident. Ils tombent amoureux l'un de l'autre, mais le passé douloureux pour Ava et la situation complexe de Ali ternissent leur idylle qui a pourtant tout pour s'épanouir. Des freins qu'ils vont essayer alors de surmonter. Alors le suspense ténue, dénué d'une forte dramaturgie sur les tenants et aboutissants de cette love story, s'avère rapidement balayé par le ton résolument optimiste qui fait de la gentillesse de ses héros le moteur du long métrage. La réalisatrice Clio Barnard saisit au plus près la ténacité des doux combattants, des amoureux de la vie qui ne cessent de se battre pour être heureux en dépit des blessures anciennes et d'obstacles présents. Alors cet optimisme se traduit également par la vision positive de Bradford, généralement dépeinte comme une ville post-industrielle plutôt déprimante où règne la pauvreté. Or nul misérabilisme innerve cette romance sociale où la réalisatrice du géant égoïste s'attarde sur les liens que les individus tissent entre eux, sur l'importance de la solidarité familiale, de l'entraide. Alors elle résiste à la tentation dans l'air du temps de dresser un état des lieux funeste, quitte à flirter parfois avec une vision idéalisée de cette petite bourgade anglaise. Mais avec intelligence et tact, elle n'élude pas les problèmes, comme la notion d'identité et de race, la difficulté d'élever seul des enfants dans un lieu où le travail se raréfie, la question toujours d'actualité des rapports de classe. Clio Barnard préfère s'attarder sur son histoire d'amour qui ouvre un champ des possibles pour deux âmes en peine. 3, 2, 1, go. Alors le titre n'est pas sans rappeler le chef-d'œuvre de Rainer Werner Fassbinder, Tout le monde s'appelle Ali, ce qui n'est évidemment pas le fruit du hasard. Dans les deux cas, il s'agit d'une rencontre, de la naissance d'un désir profond entre deux êtres qui ne devraient pas se rencontrer. Ali et Ava en serait la version allégée, délestée de la dimension mélodramatique et fataliste, voire très politique. Très vite, pour le spectateur, il apparaît naturel que Ali et Ava se trouvent bien et peuvent avancer ensemble. Les qualités habituelles alors, du cinéma anglais hein, sont au rendez-vous, bon, à savoir une écriture fine, une manière de croquer des silhouettes crédibles jusqu'au moindre figurant et, dans la continuité, une direction d'acteur exceptionnelle. Alors, Claire Ruskbrock, déjà aperçu dans Secrets et mensonges de Mike Leigh, hein, et Adil Akhtar hein, composent des personnages attachants. Surtout, ils parviennent à créer une réelle complicité, une alchimie, un récit finalement convenu de comédie romantique moderne. Alors les plus grincheux reprocheront une mise en scène fonctionnelle, embrassant les codes du naturalisme. Elle n'a rien d'exceptionnel, mais au moins elle est juste, en accord avec le sujet, toujours au plus près des comédiens. Chloé Barnard filme très bien les visages, sans aucune artificialité, et la ville de nuit bénéficiant d'une belle photographie. Alors modeste, charmant et tonique, Ali Ava est un joli film revigorant, un hymne joyeux à tous ces anonymes bah, que l'on rencontre dans la vie, mais finalement peu, fin, dans ce contexte-là, au cinéma. Et puis un film où l'on entend Dirty Houlton des Pogues ne peut que faire plaisir.
Ce film Ali et Ava était présenté et remarqué hein, lors de la quinzaine des réalisateurs au dernier Festival de Cannes et il est en salle depuis le 2 mars. Une histoire homosexuelle dans un quartier populaire de Paris filmée à la première personne, c'est Les Meilleurs de Marion Desaigne-Ravel et c'est l'interview de cette émission.
C'est un état d'esprit.
Cinérama. Bonheur. Chronique. Invité et nouvelles du 7e art.
Je t'en prie, cache ta joie.
Étrange titre hein, que ce Les Meilleurs, premier film de Marion Desaigne-Ravel, une réalisatrice passée par la Fémis. Elle nous plonge dans un quartier donc populaire de Paris dans lequel nous suivons Nejma qui pendant un été bien va tomber amoureuse avec la plus grande des surprises d'une fille qui vient d'arriver, Zina. Elles ont un caractère opposé, Nejma fait partie d'une bande de filles, suit la loi du quartier, l'autre, Zina, est plus libre, plus en marge. Elle peut même apporter ce qui manque à Nejma, ce qu'elle ne s'autorise pas, la tendresse. La mise en scène de Marion Desaigne-Ravel est claire puisque nous suivons un seul personnage de bout en bout. C'est Nejma qui est de tous les plans. Initiation sentimentale, lutte contre le jugement des autres, Les Meilleurs avancent également comme un western dans lequel on se partage le territoire et dans lequel on se fabrique une fierté, celle de la norme. On écoute la réalisatrice.
Tranquille ?
Ça va toi ?
Ça va quoi ma grande ?
Je suis de Paname. Et toi ?
Non, moi j'ai ma cousine qui habite là. C'est pour ça qu'on est venu emménager ici. Tu la connais ?
Tout le monde les connaît dans le quartier, c'est crasseuse.
Donc peut-être que je suis une crasseuse aussi alors.
Sur la dimension sociale, moi je crois que j'avais envie de parler des gens que je connaissais en fait. Et j'ai l'impression que ces ados-là, je les connaissais bien pour avoir passé du temps avec eux. Et j'avais envie de raconter une histoire d'amour et une histoire d'amour entre deux femmes. Parce que ça, c'est quelque chose qui m'habitait depuis longtemps et que je trouve encore aujourd'hui très peu représenté dans le cinéma français, même si bien sûr ça bouge énormément ces dernières années. Et donc mon point de départ, donc c'était pas l'envie forcément de faire un film social, c'était l'envie de parler de choses qui me tenaient énormément à cœur. Et c'est vrai que dans les premières réactions, dans les lectures du scénario en financement, etc., il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « mais en fait c'est un film social ». Et souvent je leur répondais « non, pas que, et pas seulement en tout cas ». Moi j'avais envie de faire un film romanesque, en fait j'avais envie de faire une histoire d'amour avant tout.
Et si c'est notre banque, casse.
Parlez-moi correctement, si vous voulez que je bouge.
On va se laisser piétiner comme ça ou quoi?
On la prend en photo avec un mec. On me fait une sale réputation directe.
Arrête, attends, 2 secondes au moins.
C'est toi qui es malade.
En sortant d'une des premières projections du film, il y a une des comédiennes qui a dit, toujours Maria Maguey, qui a dit, en fait, c'est fou, on est sur le pouls de Nejma. Et moi, j'aurais pas été capable de le formuler comme ça, en tout cas aussi clairement. Mais quand elle l'a dit, je me suis dit, oui, c'est exactement ça que j'ai cherché à faire. C'est être... constamment avec le personnage et de l'accompagner à fond, de A à Z. Et dans le film, on est avec Nejma et par exemple, on ne voit que ce qu'elle-même perçoit. On n'a pas de scène sans elle où l'intrigue avancerait de manière parallèle. Quoi. C'est pas du tout ce genre de film où il y a des histoires en parallèle et où nous, en tant que spectateurs, des fois, on en sait un petit peu plus et on peut faire des liens, etc. Je voulais vraiment que dans le film, on soit quelque part dans ses chaussures. Quoi. Et donc, par exemple, quand ses copines vont à la mer sans elle, ce qui est une grosse trahison pour les personnages, on voit de la mer que ce qu'elles ont, elles en filment et qu'elles postent sur les réseaux sociaux.
Tu me fous la honte, là, et ensuite tu me dis que t'es désolée, c'est ça ?
C'est autant un film sur une histoire d'amour et une histoire d'amour difficile dans un milieu qui la rend improbable, qu'un film sur le poids des réseaux sociaux, notamment chez les adolescents. Et d'ailleurs, ce qu'on voit aussi dans le film, c'est que les relations hétéros sont, dans tout le début du récit, sont autant la source de moqueries et de railleries dans la première partie du récit qu'ensuite l'histoire d'amour homosexuel, une fois qu'elle est divulguée en plein jour.
Je comprends pas, moi, votre génération. Vous jurez le Coran toutes les 100 minutes. Quand on arrive en France, on cherchait la liberté.
Et moi, ça m'amusait beaucoup, par ailleurs, de faire un film avec des bandes de copines. Parce que moi, ado, quand j'étais ado, je traînais avec des filles. Parce que les ados que je voyais en face de moi, elles aussi, elles traînaient entre filles et les garçons. Entre garçons, c'est quand même un truc à l'adolescence. On n'aime pas forcément beaucoup, beaucoup se mélanger. Donc je trouve que c'était assez juste comme constat. Et puis surtout, moi, j'ai l'impression que je n'ai pas assez vu de films avec majoritairement des personnages féminins quand moi-même, j'étais adolescente, en fait, pour me construire quelque part. Et donc, j'avais envie que le film y véhicule cette énergie-là aussi.
Je suis sûre qu'un jour, tu me ramèneras un beau jeune homme.
Mais j'y crois rien, je suis rien.
Cette pute-là.
Non, regarde-moi, t'existes plus pour nous, c'est bon ?
C'était Marion Desaigne-Ravel pour le film Les Meilleurs, en salle depuis le 2 mars. On se quitte avec Adèle Exarchopoulos en hôtesse de l'air qui ne touche plus terre. C'est rien à foutre. Et c'est Marine qui nous en parle.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama,
c'est un passe-temps surprenant.
Dans la même journée, je peux voir et la neige et le soleil. J'ai de la chance quand même. Si je vomis, je vais vomir rangé.
Cassandre est hôtesse de l'air pour la compagnie Wing. Elle poste souvent sur les réseaux sociaux des photos de son quotidien, des photos idylliques mais qui sont bien loin de la réalité, car Cassandre subit de plein fouet un travail de plus en plus difficile, de moins en moins gratifiant et dont la seule logique est le profit au détriment des relations humaines. Rien à foutre de Emmanuel Mar et Julie Lecoustre est un film particulier. C'est d'abord un film qui dresse le portrait d'un métier, puis le portrait d'une jeune femme et enfin celui d'une famille. On passe d'un ton comique presque joyeux, presque grotesque, lorsque l'on suit Cassandre à Lazarote faire la fête avec ses collègues et arriver au travail encore ivre, jusqu'au drame social qui explore les aspects les moins glorieux du métier pour finalement aboutir à une chronique familiale émouvante et très juste. Vous ne verrez plus jamais les hôtesses de l'air de la même façon. Le film montre très bien l'enfer des compagnies low cost dans tout ce qu'elles ont d'inhumain. Les hôtesses doivent noter leurs propres collègues, se font rappeler à l'ordre en cas de notes trop indulgentes. Elles doivent vendre un certain nombre de marchandises, boissons, parfums, par vol, et elles sont évidemment mises en concurrence les unes avec les autres pour atteindre leurs objectifs. Dénoncer ses collègues en cas de manquement aux règles est tout à fait encouragé, et on ne parle pas de manquement aux règles de sécurité, bien sûr non, mais aux règles mises en place pour être le plus productif possible.
Les gens, je les aime pendant 2 heures et puis après salut.
Can you stay with me? Please.
Et tu trouves que les conditions sont bonnes?
Si on ne fait rien, ça va être de pire en pire. Pour l'avenir.
Pour l'avenir, je ne sais même pas si je vais être vivante demain.
C'est un film non pas réalisé, mais fabriqué, comme l'indique le premier carton du générique de fin. Le film alterne les plans-séquences tournés à l'iPhone, les plans tournés en pellicule, en numérique. Un choix formel plutôt intéressant, avec une dimension quasi documentaire. Il ressort de Rien à foutre, un film pas vraiment abouti mais profondément sincère, une impression un petit peu étrange d'inachevé, mais aussi un sentiment profond d'injustice, l'idée que l'on vient de voir un film inhabituel dans lequel entre autres le producteur est aussi comédien et dans lequel surtout Adèle Exarchopoulos dans le rôle principal brille par son naturel et par son énergie.
Rien à foutre est en salle depuis le 2 mars.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Mais pour quelle raison ?
Eh bien voilà, on s'est tout dit.
Ah bon ?
Qu'est-ce que vous racontez ?
Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
C'est difficile de répondre, comme vous êtes bizarre.
C'est une plaisanterie !
On se retrouve la semaine prochaine avec un film japonais pour toi.
Oui, The Housewife, le premier long métrage d'une jeune réalisatrice japonaise.
Marine, quant à elle, nous parlera de la MIF et nous rapportera une interview. À la semaine prochaine.